Charles Élie Couture, donc un nouvel album, le 24e, Trésor caché et perles rares. Alors j'ai lu ici et là que cet album était un album imprévu.
Oui, imprévu, impromptu, qui est venu un petit peu comme une envie soudaine, à savoir que il a été inspiré, on va dire, par l'introspection qui m'a été obligé de faire par quand je répondais aux questions de David Desvérités pour la biographie qu'il écrivait sur moi. Le fait de me replonger sur ma construction, j'allais dire, m'a incité à réécouter certains titres en me disant « Ah, c'est dommage, ceux-là sont passés un peu à la trappe. » Alors, vous savez, quand un disque sort, il y a un titre ou deux maximum qu'on met en valeur. Le reste de l'album, il est un peu laissé pour compte, on va dire. Et certains de ces morceaux me semblaient toujours d'actualité et mériter de vivre, à savoir que je me disais qu'il y en a beaucoup que j'aurais pu écrire encore aujourd'hui de la même manière, et la seule chose qui changeait, c'était les arrangements. Alors c'est sur cela qu'on a travaillé, Karim Atouman et moi.
Alors c'est vrai qu'une chanson, finalement, elle n'a pas d'âge, elle trouve son public, elle trouve écho à n'importe quel moment.
C'est-à-dire qu'une chanson, c'est quelque chose d'assez particulier. Une chanson, c'est un peu comme un objet qui est posé sur une étagère. Et souvent, la chanson en tant que telle, elle est figée. Mais le blues, c'est pas ça. Le blues, c'est une humeur, c'est une intention. Et l'interprétation d'un blues, c'est quelque chose qui a autant d'importance quasiment que la structure sur laquelle on va s'appuyer. Et mes chansons, je les conçois plus comme des intentions, et donc à ce titre-là, d'une manière plus fondamentale que formelle. Une chanson, ça tient souvent à des détails dans l'arrangement. Qui vont faire que, je sais pas, pour prendre Paris s'éveille, vous voyez, la flûte, elle est indissociable de la chanson elle-même, pour prendre que ça. C'est le son d'un synthé, c'est le son de ceci, le son de cela. Ça fait la chanson. Alors que pour une musique, en fait, c'est la structure, c'est le fondement des accords qui va faire le chapiteau, si vous voulez.
Alors justement, est-ce qu'il y a une grosse différence entre la musicalité au moment où la chanson est sortie, il y a quelques années, et cette musicalité aujourd'hui, dans l'humeur du moment ?
En ce qui me concerne, oui, d'abord, l'intention était de mettre en avant les textes. Du coup, la musique, elle sert de tapis. L'image que je donne, une chanson, c'est un mur, si vous voulez. Les mots, c'est les pierres, et la musique, c'est le ciment. Dans le cadre de ces arrangements, c'est vraiment les mots qui font l'histoire, puisque je raconte des histoires, en fait. Je suis un storyteller. Quand je parle, par exemple, de la balade de Serge K, si vous voulez, qui raconte l'histoire de ce mec qui est mort de faim, mort de froid dans les années 80. Finalement, son histoire, elle est toujours d'actualité, si je puis dire, sauf qu'il y en a beaucoup plus. Celui-là, c'était un des premiers, il s'appelait Serge Cosse. Et la manière dont on reprend le morceau, elle est grave, j'allais dire. Elle résonne en faisant comprendre. C'est moins une colère comme adolescente, j'allais dire, comme celle que j'avais écrite, que comme un constat effaré de ce que c'est que le monde, vous voyez. Donc il y a des chansons comme la deuxième chanson de Ciao Pantin. Les gens connaissent, pour ceux qui connaissent le truc, la chanson Quand les nuits sont trop longues. Mais il y avait une autre chanson que j'avais écrite qui s'appelle Retourne-toi, que les gens n'avaient pas forcément noté et que je trouvais intéressante. Donc, par exemple, il y a ça aussi, etc., etc.
Justement, ces personnages, Serge K, on parle de Ciao Pantin, oui, évidemment, ce sont des personnages à la fois cabossés par la vie, sur le fil du rasoir, entre ombre et lumière. C'est quelque chose qui vous ressemble, ça ? Est-ce que ça vous ressemble aussi du fait que vous avez vécu longtemps à New York et puis avec le côté Paris ? Alors, on pourrait dire le côté sombre de New York et le côté lumière de Paris, je ne sais pas si on peut faire ce parallèle.
Disons, Non, ce que ça a d'exact, c'est le côté bi, c'est-à-dire que je m'assume autant cerveau droit que cerveau gauche. C'est-à-dire, je suis depuis mon prénom lui-même est une association de prénoms, Charles et Élie. Je me suis construit sur une dualité, si vous voulez. Donc, j'assume cette dualité au lieu de la combattre. Comme disait Harry Belay il y a quelques années, il disait en allant à New York, je suis passé de Nini à Hé-Hé. C'est-à-dire, j'étais au lieu d'être ni l'un ni l'autre, je suis devenu et l'un et l'autre. C'est à ça que New York m'a servi, si je puis dire. Mais vous parlez de New York, d'ailleurs, je viens de terminer et de rendre hier le manuscrit au Cherche Midi de mon prochain livre que je signe là en ce qui me concerne et qui sortira en janvier, qui s'appelle New York Memories, dans lequel je raconte à travers une quarantaine de nouvelles et d'histoires mon passage à New York. Oui, New York m'a permis d'assumer ce que j'étais et voire même de mieux me comprendre en ça qu'en France, on doit beaucoup se justifier par rapport à ce qu'on a été, à l'imparfait. Et il est très difficile de se faire entendre au futur. C'est une des grosses différences entre la France et les États-Unis, la relation qu'on établit avec le présent. Pour revenir au personnage dont vous parlez, je crois qu'on est dans un monde qui saoule d'idéal et évidemment on n'atteint pas toujours le but qu'on s'est fixé, mais ce qui compte c'est d'avoir le courage de remonter et de reprendre, mais entre temps il y en a quelques-uns qui restent en rade. On est dans une société extrêmement sophistiquée quand même. Hein.
Alors pour parler d'écriture qui rime pour vous avec littérature, bien évidemment, les mots sont les mots, vous les cueillez comme ça. Je ne sais plus qui disait pour composer les guitares sont pleines de notes et il suffit de les attraper pour composer. Est-ce que c'est un peu la même chose pour vous pour l'écriture?
Ah, c'est pas mal comme formule. Ouais, pourquoi pas, après tout, l'écriture c'est comme, c'est là, je la vois comme la peinture. C'est-à-dire que quand je me mets devant un tableau, je sais pas toujours exactement où je vais, ou plutôt il va y avoir un chemin. Je pars avec une intention et puis j'essaye de formuler cette intention. C'est rare que l'intention soit à l'arrivée, ça donne exactement ce que j'avais imaginé au début. Hein. Et ben pour l'écriture c'est la même chose. L'écriture c'est mu d'abord par une énergie en fait. Toute forme de création c'est de l'énergie. On transmet d'une manière comme une autre l'énergie qu'on a en soi. Quand on n'a plus d'énergie, ben on ne fait plus rien. Mais par contre, et c'est pour ça que j'anime des conférences autour de la question de artiste ou artisan. Dans le débat de l'un face à l'autre, l'artisan, lui, est quelqu'un du conscient, alors que l'artiste est quelqu'un de l'inconscient. C'est-à-dire que l'artiste va chercher dans son inconscient des choses qu'il ne connaît pas et qu'il voit apparaître en même temps qu'il les fait. Alors qu'un artisan est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir et qui se dirige vers quelque chose dont il connaît la finalité.
Vous parliez de peinture. La peinture, quelquefois, le pinceau, la peinture, la couleur, on la torture sur la toile. On torture le pinceau, on torture la couleur pour amener quelque chose. Est-ce que les mots, c'est un peu la même chose? Est-ce que ce sont les mots que l'on torture ou est-ce que ce sont les mots qui vous torturent?
Bonne question. Je dirais que c'est à double tranchant. Il y a des choses qu'on fait en les dominant et puis il y a des autres fois où on est dépassé. Ça dépend du caprice. Écrire, c'est beaucoup du caprice. Enfin, je ne le dirais pas pour ce type d'écriture, celle dont on parle, par exemple, pour une biographie, c'est différent. Mais pour ce qui est de l'écriture comme la musique, oui, c'est comme les accords, vous voyez. Il y a certains accords qui en amènent d'autres. Et puis, il faut faire avec parce que ça fait trois accords qui fonctionnent bien les uns avec les autres. Du coup, on en est un quatrième, et etc., etc. Et ça devient comme une suite de dominos. qui s'enchaînent, et puis ça donne un résultat, mais quelquefois, je répète, assez éloigné de ce qu'on avait imaginé au départ. C'est pour ça que quand les gens nous demandent qu'est-ce que vous vouliez faire, ben, des fois, on ne sait pas ce qu'on voulait faire, on sait juste ce qu'on voulait faire. Ça, c'est vraiment important. Et c'est comme ça que j'ai toujours agi. Moi, j'ai toujours fait, d'abord, avant de me poser la question de ce que je pourrais en faire.
Alors il y a un titre dont il y a une première version il y a une vingtaine d'années, Né trop loin, un titre qui prend toute sa, je dirais, toute sa raison aujourd'hui.
Oui, c'est l'histoire d'un réfugié, un mec qui s'est barré, puis qui fait une connerie, il se fait toper, il passe par la fenêtre d'un commissariat, voilà. C'est résumé en quelques mots, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, du storytelling, des histoires qu'on raconte qui sont symboliques. De même, sur le précédent album, j'avais raconté l'histoire de ce mec qui se faisait flinguer dans sa bagnole, le black qui se faisait flinguer dans sa bagnole par les flics. J'allais dire, la réalité est plus forte souvent que la fiction. Et au départ, je voulais être metteur en scène de cinéma. C'est pour ça que j'avais commencé à faire les Beaux-Arts. Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire d'une manière assez visuelle, si vous voulez. J'ai toujours gardé ce côté visuel. Quand je raconte une histoire, quand j'écris une chanson, j'espère toujours que les gens vont la voir sur l'écran de leur cervelle en même temps qu'elle défile. Et c'est aussi pour ça que l'importance des mots aujourd'hui est prépondérante dans ce que je fais. Peut-être plus qu'au départ. Au départ, je croyais que les mots pouvaient être confondus avec la musique, si vous voulez. Et donc, je faisais des sous-mixages. J'avais un peu tendance à mettre la voix à l'intérieur de la musique. Alors qu'aujourd'hui, cette voix, elle a pour finalité de porter les mots qui racontent des histoires. Né trop loin, ça en fait partie.
Alors, il y a une chanson aussi, donc Une main dans la mienne, que vous chantez avec votre fille, Yamé.
Ouais,
là,
ouais.
C'est une histoire de famille, c'est une forme de transmission.
Oui, un peu de ça. Et puis, ce qui est vrai aussi, c'est qu'elle avait déjà fait la petite voix quand je l'avais enregistrée avec elle il y a une vingtaine d'années. Donc, c'était amusant de la refaire avec elle, qui aujourd'hui est devenue une jeune fille. C'est une chanson, oui, intime, mais oui, c'était l'idée de dire que les grands ont quelquefois besoin des petits, voilà, tout simplement. Allez, on va dire ça, faisons simple.
Faisons simple. Trésor caché et perles rares, donc le dernier en date d'album de Charles Élie Couture, donc dans les bacs, comme on disait avant. Charles Élie, merci beaucoup en tout cas pour cet échange qui nous permet de mieux vous connaître. Et puis j'invite aussi tout le monde à acheter cet album ou à l'offrir pour les fêtes, mais également aussi à regarder les clips, parce que les clips sont très très bien faits également aussi.
Je précise que les clips sont maintenant réalisés par mon autre fille, Shahan, qui est réalisatrice et qui a la gentillesse de me faire profiter de son talent. Et voilà. Le dernier clip, c'est celui de La Maline que j'ai faite sur une chanson de Rimbaud que j'ai mis en musique, voilà, qui s'appelle La Maline, et extrait du cahier de Douai, écrit en 1870.
Comme quoi, la belle littérature, les textes, les bons écrits n'ont pas d'âge, encore une fois.
Voilà. Oui, c'est ça.
Merci beaucoup, Charles Élie Couture.
Je vous en prie.
Et puis, à bientôt. Merci.
À bientôt.